Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 170. Nous sommes le 4 juin 2020 et on attaque tout de suite. Eh bien, bonjour à tous, bonjour Tic-Tac-Mi, bonjour Impec-Collec, même si j'ai eu très envie de ne pas citer ton nom exprès rien que pour t'embêter. Salut Capturer l'Instant, salut Otalok, Akutakun, pardon, Nat, Damien, Laetitia et mon cher Jérôme qui est présent dans la chatroom, ou peut-être est-ce Marion, mais à mon avis, je pense que c'est plutôt Jérôme. Salut Gilles, salut Nabil. Waouh, la violencitude dès le matin. Écoute, est-ce que tu le cherches pas un petit peu quand même, Olek, assez souvent, hein, régulièrement, les petits tacles, on les voit, mais on les aime, tu sais qu'on t'aime ici, voilà. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis un peu fatigué, mais je suis de bonne humeur, ce qui est quand même, ce qui compense très très bien la fatigue, donc c'est très cool et on va attaquer tout de suite sur le Kawa. On a pas mal de news aujourd'hui, pas mal de news très intéressantes. Et pour la tartine, donc ça ne sera pas un entre quatre œufs, hein, j'en ai fait un la semaine dernière, là ça sera une tartine. J'avais envie de faire une tartine un petit peu plus détente aujourd'hui, donc ça sera une tartine animée japonais. Trois animés, trois séries, hein, pas des films d'animation, donc vraiment des séries d'animés. De séries qui sont pas forcément très très connues, elles le sont, mais je veux dire, c'est des fois on entend le nom passer, on se dit ah peut-être faudrait que je le regarde, mais on le regarde pas. Moi je les ai vus et je vous en parlerai justement pendant la tartine. Là je vous propose qu'on attaque le Kawa. Et pour ce Kawa, bon, ce sera l'entracte quoi. Ah, mais il faut regarder des animés, Yves. Il y a des très très jolies histoires. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une première étude qui a été faite par Combini. Alors j'ai quand même un petit peu checké tout ça, combien de personnes ont été sondées, tout ça. On est sur 1500 jeunes âgés de 18 à 34 ans. Entre le 29 avril et le 2 mai. Et on leur a demandé à ces jeunes on leur a demandé comment ça s'est passé pour vous le confinement et comment vous voyez le futur et tout ça. Et c'est vrai que cette étude, à la fois, je trouve qu'il y a du positif évidemment, mais à la fois, je trouve que il y a du négatif. Alors j'ai vu passer ça. C'est vrai que après réflexion, on n'est pas forcément dans quelque chose de très 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 tech, mais j'avais envie d'en parler parce que je trouve que ça nous concerne tous et je trouvais ça vraiment vraiment intéressant. Donc faut que je vous montre un petit peu les couleurs utilisées qui je trouve quand même pique un peu les yeux. je dois bien avouer que le sondage ça picote un petit peu les yeux. Mais bref, ce sondage parle aussi d'écologie, parle de consommation locale, de trucs comme ça. Donc je trouvais ça vraiment intéressant de vous en parler. Donc le sondage, qu'est-ce qu'on en détermine? On apprend que 6 jeunes sur 10 ont plutôt bien vécu la crise et ne sont pas inquiets pour l'avenir. Donc ça c'est la version vert à moitié plein. Moi j'ai un peu aussi la vision vert à moitié vide. C'est-à-dire que 4 jeunes sur 10 se sentent pas forcément très très bien et sont inquiets pour l'avenir, ce qui est pas forcément un chiffre extrêmement rassurant, vous en conviendrez hein, en tout cas. On a remarqué aussi que les personnes sondées appartenant à la tranche d'âge la plus jeune, 18-24 ans, et les femmes sont généralement plus inquiètes pour l'avenir que les 25-34 ans. Ça, je suis très curieux, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que les femmes sont plus inquiètes pour l'avenir quand elles ont entre 18 et 24 ans? Pourquoi cette différenciation aux femmes? Je suis assez curieux. Donc c'est une tendance qui a déjà été constatée sur plusieurs études avant. Et donc par rapport au futur, Sur le plan des bonnes intentions, la crise du coronavirus a confirmé les priorités des jeunes. La crise climatique et environnementale ainsi que le gaspillage des ressources restent leur sujet de prédilection pour le monde d'après. 27% ont exprimé leur intention de réduire leur consommation, tandis que 26% veulent réduire leur empreinte écologique ou consommer plus local. Voilà, alors il y a Stéphanie Decombe qui, je crois, est la personne qui a fait l'étude, qui dit qu'il faut faire attention à ces déclarations. Ils affichent souvent une bonne volonté, donc les jeunes, hein, et sont les premiers à se faire livrer du fast-food par exemple. Ils sont cependant conscients de ce paradoxe et attendent beaucoup de la part des marques pour les accompagner dans ce changement du monde. Ouais, mais par rapport au fast-food, je vous invite à regarder un petit documentaire très intéressant sur Arte et sur le sucre. Et vous verrez que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Donc ouais, voilà, je voulais effectivement parler de ça, parce que c'est vrai qu'on est sorti justement du confinement, on est en plein déconfinement, et ça reste quelque chose de vraiment d'actualité. Et le fait que voilà, 6 jeunes sur 10 vont bien, mais donc 4 jeunes sur 10 vont pas forcément très très bien, bah je trouve que c'est un peu inquiétant, donc voilà, je trouve ça, j'espère que ça ira mieux quand même, malgré les news actuelles sur Trump et tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Voilà, je pense aussi que ce genre de crise peut améliorer les choses, in fine. C'est vrai que la charte graphique de Combini est épileptique le matin. Non mais attends, franchement, Combini font des trucs cool, mais ah, ça pique. C'est après, heureusement qu'ils utilisent des contrastes qui fonctionnent bien, mais parce que le bleu et le jaune sont des couleurs qui se contrastent très 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 bien. Voilà, faut s'accrocher. Revenons à de la tech un petit peu plus pure et dure avec Apple et l'iPad Air 4. Il y a eu des rumeurs hein, de Mako Takara via 9to5Mac, donc qui est un site très très connu. Firme de Cupertino, donc Apple, va publier l'iPad Air 4 et va le rendre en USB-C. Alors que le futur iPad mini conservera le port Lightning. Alors, il y a plein de gens, dans l'article, ils se posent la question de pourquoi Apple fait ça, ça rend la gamme confuse, etc. C'est vrai. Mais c'est tout simplement, je pense, dans des soucis d'économie, parce que Apple a des châssis pour l'iPad mini qui sont déjà tout prêts, quoi. Ils ont les maquettes, les modèles qui sont dans leurs usines. Et passer à de l'USB-C, ça demanderait. Et en plus, vu l'épaisseur de l'iPad mini que j'ai dans le coin, en plus, là, que je sais pas où j'ai foutu. Ah non, il est dans le salon. Mais l'épaisseur de l'iPad mini, je suis pas convaincu qu'elle permette d'avoir un port USB-C, alors que le port Lightning est beaucoup plus fin. Donc je pense que c'est pour ces raisons-là. C'est beaucoup mieux l'USB-C. Non, mais évidemment, Anthony, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. C'est trop, trop bien d'avoir tout qui suit. Alors, la caméra qui filme actuellement, la 7.3, est branchée en USB-C. C'est quand même le feu. Donc, le câble que j'utilise pour charger, c'est le câble de la Switch. C'est le câble de la Nintendo Switch qui alimente actuellement le Sony A7 III. Donc, oui, l'uniformisation de l'USB-C est géniale. Mais voilà. Il se posait la question dans l'article de pourquoi c'était comme ça. Bah parce que Apple a les châssis qui sont déjà tout prêts pour du Lightning. Et l'iPad mini n'étant pas du tout le haut de gamme d'Apple, il considère que la population qui achète un iPad mini n'est pas. Enfin, les consommateurs qui achètent un iPad mini ne sont pas des pro-users. Et en vrai, ils ont pas tort, enfin des prosumers comme on dit, ils sont pas tort du tout. C'est clairement, je pense, ceux qui achètent des iPad mini, c'est moi parce que j'aime bien le côté compact, mais c'est vraiment mamie, papy et des gens qui ont envie d'avoir des usages très très light sur leurs iPads. Voilà, un des trucs par exemple que je regarde sur effectivement l'iPad mini, c'est que j'en étais servi pour comme une petite. Enfin, je l'avais acheté comme une petite machine pour stocker des photos en shooting, etc. Mais malheureusement, un truc qui est assez pénalisant, c'est la vitesse de transfert. On est sur de l'USB 2, donc c'est très 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 relou. Voilà. Juste, il est fragile l'USB-C, je trouve. Moi, je trouve pas. Après, ça dépend des câbles. What the fuck, d'habitude, quand j'utilise le câble de la Switch pour charger, ça marche pas. Bah là, ça marche, écoute. J'ai chaque fois ah ok, je pense que c'est un commentaire qui parlait d'autre chose. Avec les téléphones, le chargeur de la Switch marche, mais pour un Mac, pas sûr. C'est normal, parce qu'en fait le problème du Mac, c'est que c'est donc des ordinateurs portables, c'est qu'ils demandent une puissance bien plus grosse que les simples chargeurs qu'on a pour nos smartphones. C'est un peu un des problèmes d'ailleurs de l'USB-C, c'est que comme c'est la même connectique, on pourrait se dire que ça marche, mais non, il y a une vraie problématique d'énergie en fait, enfin d'électricité transmise, de puissance. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien regarder le nombre de watts. Normalement, il y a la puissance en watts sur les chargeurs. Genre les chargeurs des Mac, je crois que c'est 65 watts ou quelque chose comme ça. Ça dépend après si c'est le 13 pouces, le 15 pouces, enfin le 16 pouces maintenant, etc. etc. J'ai déjà chargé le Mac avec le chargeur de la Switch, ça fonctionne. T'as quel Mac, Fast Henry? T'as le 12 pouces peut-être, non? Ou le 13 pouces? Mais à mon avis, le 15 pouces, bah, ça marche peut-être, mais c'est très lent. Les perfs du dernier iPad mini sont bien boostés quand même. Non, mais après, il est très bien l'iPad mini. Il est très très bien. Mais effectivement, c'est dans un souci d'économie voilà, d'argent et la cible n'aura vraisemblablement pas besoin de l'USB-C. Bref, avançons et reparlons à nouveau, mesdames et messieurs, de Trump. Je suis désolé si ça en saoule certains, mais il s'avère que c'est quand même l'actualité hot et chaude du moment. Snapchat est un réseau, enfin, fait partie des réseaux sociaux qui a pris action, enfin, a pris une décision par rapport à Trump, et l'entreprise va arrêter de promouvoir le compte de Trump. Alors, je savais même pas que Trump avait un compte sur Snapchat. C'est sûrement quelqu'un dans son cabinet qui s'en occupe. Hein. Je pense pas que ça soit lui directement qui écrit sur Snapchat, alors qu'on sait que Twitter, a priori, c'est vraiment Trump. Donc Snapchat a annoncé qu'ils ne vont plus faire la promotion du compte Snapchat du président Donald Trump sur leur page Discover. Hein. Vous savez que sur Snapchat, quand vous swipez sur la droite, si je dis pas de conneries, vous avez une page Discover qui permet de découvrir du contenu d'influenceurs, voilà, à travers le monde. Et pourquoi Snapchat fait ça? Ils ont dit qu'ils voulaient pas promouvoir ça, pour éviter d'amplifier les voix et les annonces qui incitent à la violence raciste et aux injustices. Alors, je me rappelle plus exactement ce que Trump a... C'était quoi? C'était when riot... Enfin, quand il y a des... Ah oui, quand il y a du loot, enfin, quand il y a des gens qui pillent, when looting starts, shooting starts, je crois. C'est ça qu'il avait tweeté, ce qui est absolument scandaleux, hein, qu'un président incite à ce point-là à la violence. Non, mais c'est bon, bref, hein, voilà, on va pas refaire le débat. Mais voilà, ce qu'a dit Snapchat, c'est nous ne voulons plus faire la promotion du contenu du président, un parlementaire de Snapchat. Ah, je suis désolé, je traduis un peu en direct live l'article en anglais, donc des fois c'est pas forcément évident. Enfin, une personne qui parlait pour Snapchat. Bon, il répète un petit peu ce que je vous ai dit juste au-dessus. Les violences racistes et l'injustice n'ont pas leur place dans notre société et nous voulons nous soutenir pour la paix, l'amour, l'égalité et la justice aux États-Unis. Voilà. Porte-parole, merci Aura France. Je cherchais le mot. Surtout une phrase historiquement raciste reprise par un président actuel. C'est vrai, c'est tout à fait vrai en plus. C'est ce qu'a dit Marion hier. Si Trump se plaint auprès de Snapchat, est-il dans ses droits? Je crois pas. Je crois que ce que j'avais lu par rapport, par exemple, à Twitter, c'est que légalement, Trump ne peut pas vraiment faire grand-chose sur le fait que Twitter mette des messages de « attention, ce sont potentiellement des fake news » ou « attention, ça incite à la haine ». A priori, Trump, légalement, ne peut pas vraiment faire grand-chose. Après, il reste le président, donc il a quand même des pouvoirs supplémentaires, donc à voir. Mais bon, a priori, ça devrait pas être trop... Ouais, après, le Covid, les US, c'est vrai que c'était des gens qui en parlaient sur Reddit, mais c'est vrai qu'on a switché de sujet en très très peu de temps. Le coronavirus était le sujet chaud pendant 2 mois et demi, pendant le confinement, et puis très rapidement, on est passé à autre chose. Mais je pense que c'est dû au fait que le coronavirus a eu un impact fort sur notre société, mais paradoxalement, en fait, la majeure partie de la population n'a pas eu d'impact de proches qui en est décédé ou de choses comme ça, ce qui fait que ça n'a pas été si traumatisant que ça. Et ça explique pour moi le fait qu'on soit passé à autre chose. Je pense que il y a un traumatisme. Hein, moi, je sens que ça a joué sur le moral et tout ça. Mais je veux dire, c'est pas comme une guerre. C'est pas pareil. Une guerre, vraiment, on voit le malheur autour de soi beaucoup plus. Là, on est quand même resté. C'était plus une bulle. C'était plus une bulle de 2-3 mois. Et la bulle s'est terminée. Retour à la normale. Enfin, il y a un peu ce côté-là. Lui dit qu'il connaissait pas l'histoire de cette phrase, qu'il l'a sortie comme ça en prenant en son sens littéral. Le pire, c'est qu'il est tellement peu cultivé qu'on pourrait y croire. Ouais, tout à fait. C'est pas impossible du tout. Hein. À tous les coups, Trump va exiger son propre réseau Twitter. Peut-être. J'y crois pas trop, hein, très honnêtement. Sauf que les gens font même pas attention et repart direct pour une deuxième vague. C'est pas sûr, Drunks, parce que avec le coronavirus, si c'est comme la grippe classique, en fait, en été, ça se propage beaucoup moins parce que les gens sont beaucoup moins en intérieur et sont beaucoup plus en extérieur. Et en fait, le coronavirus se propageait énormément dans des lieux très clos et très confinés au final. Mais à partir du moment où tu es en extérieur, ça réduit drastiquement la propagation du virus. Donc, il faut pas oublier qu'à partir du moment où on contamine, enfin, je sais plus combien est le R0 là, mais en gros, il y a au bout d'un moment où si le taux de contamination est assez faible, ben en fait, le nombre de malades décroît de plus en plus. Et je crois qu'on est à peu près dans ce moment-là. À prendre avec des pincettes, bien sûr, hein. Ah, BX. Non, on parlera politique parce que la tech est politique. On ne peut pas aujourd'hui parler de tech sans parler de politique, c'est obligatoire. C'est beaucoup trop lié, tellement la tech a une place importante dans la vie. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui demandent à ce que Internet soit considéré comme l'eau courante, comme l'électricité, c'est-à-dire comme quelque chose, comme un commun, comme quelque chose qui doit être disponible à tous, même sans le payer. C'est-à-dire qu'Internet soit quelque chose de mondialement accessible, gratuitement. Alors, on n'en est pas là, hein, bien évidemment, mais Internet est devenu tellement ancré, indispensable dans notre société, pour même trouver du travail, pour tout ça, que c'est un débat qui peut être intéressant, je trouve, à être discuté. On va parler de Zoom. Le patron de Zoom a annoncé qu'il ne chiffrerait pas les appels gratuits parce qu'il veut pouvoir transmettre ces appels gratuits et leur contenu et ce qui a été dit avec la police. Voilà, alors que les utilisateurs qui payent pour Zoom, eux, ont leurs appels chiffrés. Donc, c'est pas ouf comme message. Déjà, actuellement, avec ce qui se passe, je pense que faire une annonce par rapport à la police, c'est un peu risqué au niveau de l'image d'une entreprise. Mais le fait surtout de ne pas chiffrer par défaut est un gros problème. Il faut absolument que je fasse cette tartine pour expliquer pourquoi, enfin, par rapport à la vie privée, pourquoi c'est important que tout soit chiffré, qu'on soit dans cet écosystème-là. Bref. Donc, Yuan, hein, donc le patron, a dit que les utilisateurs gratuits ne profiteront pas de ce niveau de vie privée. Le chiffrement, évidemment, permet de ne pas pouvoir lire les communications. Et là où vous allez comprendre pourquoi je trouve ça. Certains pourraient se dire, mais si, c'est quand même bien, si la police peut-être le collecte. Alors, je rappelle que Google Duo et Apple FaceTime sont chiffrés. Donc, en fait, c'est. Si Apple et Google chiffrent ce genre de communication, c'est pas pour rien. Alors que Apple et Google travaillent avec les autorités pour transmettre des informations. Hein, on est bien d'accord. Mais c'est toujours le même problème du droit à la vie privée, le fait que on n'a pas forcément envie que tout soit épié, que tout soit écouté, etc., etc. Sinon, on tombe dans des systèmes comme en Chine où tu ne peux pas dire certains mots dans des chats avec des amis, alors que tu devrais pouvoir le dire. Et c'est pas parce que tu utilises par exemple le nom d'un dictateur que tu es pour ce dictateur. Mais ce genre d'histoire a tendance à amener vers ce genre de société de dystopie où tu as peur de dire certains mots. Alors que tu sais pas ton avis et ton opinion, voilà, tu as peur, enfin, c'est le truc de Panoptique, enfin, voilà, j'en reparlerai dans une tartine. Mais bref, Zoom qui, selon moi, fait pas du tout le bon move, il devrait tout simplement chiffrer. Surtout qu'en plus, par rapport aux appels gratuits, pourquoi ils font ça? C'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont amusés à aller pourrir des conversations privées sur Zoom en ayant des comptes gratuits. Sauf que Zoom a mis en place je le sais parce que dans ma boîte on utilise Zoom, ils ont mis en place des mots de passe automatiques sur les conversations, etc. Et donc, en fait, si une personne trouvait l'URL de la conversation, par exemple là où on fait, je sais pas, les daily meetings ou ce genre de choses, elle pourrait pas venir en fait. Enfin, elle serait bloquée. Donc, c'est pas un argument qui est valable. Tu déclenches mon Google Home, Guillaume. Ah, et eh ben écoute, j'en suis désolé. Voilà. Ce niveau de vie privée, vous êtes trop pauvre pour qu'on prenne en compte votre vie privée. Ouais, mais en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai précisé ce dont parlait le patron, c'est plutôt les plaisantins qui s'amusent à faire des appels pour troller et tout ça. Mais il s'avère que c'est pas un argument valable quand même, je trouve. On va avancer, mesdames et messieurs, et nous allons parler. Alors là, c'est un article qui, je trouve, porte à débat. Prête à débat, le mode de la navigation privée sur Google Chrome et enfin en gros tout le débat est autour de ça. Google est poursuivi en justice pour atteinte à la vie privée. Donc on reste un petit peu dans ce genre de sujet là. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que quand vous ouvrez un onglet de navigation privée sur Google Chrome et sur Firefox d'ailleurs, vous avez cet écran là. Un écran qui globalement au premier abord, est assez explicite. Évidemment, ce que je veux dire là, c'est à travers mon avis à moi. On est bien d'accord. C'est un écran, quand vous ouvrez la navigation privée, qui est assez explicite, qui dit « Vous êtes passé en mode navigation privée, les autres utilisateurs ne verront pas votre activité, les téléchargements, les favoris seront enregistrés, Chrome n'enregistrera pas les informations suivantes, votre historique, les cookies, les informations, etc. Votre activité peut rester visible par les sites web que vous consultez, votre employeur ou votre établissement scolaire, votre fournisseur d'accès Internet. » Bon, jusque-là, a priori, pas trop de problèmes. Mais, en fait, cet article fait réfléchir sur un truc que je trouve effectivement intéressant. C'est qu'il ne faut pas oublier que monsieur et madame tout le monde n'a pas forcément la compréhension de ce que cet écran signifie et de ce que ça veut dire par « votre activité peut rester visible par les sites web que vous consultez, votre employeur, blablabla et tout ça ». Ce qui fait que, effectivement, quand on y réfléchit un petit peu, le mode s'appelle « navigation privée ». Mais en vérité, ben, il n'est pas privé ce mode. Enfin, syntaxiquement parlant, c'est pas un mode de navigation privée. C'est un mode de, à la limite, de navigation privée locale. Mais il manque une précision, on est bien d'accord, hein, mais il manque quelque chose qui précise le truc, parce que sinon, quand on ne s'y connaît pas trop, et quand on ne lit pas assez l'écran, on pourrait se dire « je suis en navigation privée, donc ce que je fais n'est pas stocké du tout ». Voilà, navigation réduite ou navigation privée pour soi. Donc Yves Castel, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais effectivement, dire juste « navigation privée », c'est un peu... C'est pas faux, mais c'est imprécis. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une plainte, justement, au sujet de cette navigation privée. Le recours... Alors, c'est qui a passé la plainte? C'est un collectif, mais il ne le précise pas. Attendez, j'aimerais bien... Ok, il n'y a pas de... Non, c'est un collectif de personnes, donc c'est pas forcément... C'est une classe action, hein, mais c'est pas une entité, c'est pas une association ou une organisation. Donc il y a une plainte contre Google et sa maison mère, évidemment, qui pointe du doigt la fonctionnalité incognito du navigateur Chrome. Quand un internaute passe en mode privé, Google continue à suivre, collecter et identifier les données de navigation en temps réel, en violation des lois fédérales et étatiques sur les écoutes et en violation du droit des consommateurs à la vie privée. Voilà. Des services comme Google Analytics ou Google Ad Manager continuent de recueillir des informations sur nos centres d'intérêt, par exemple. Ce qui est vrai, quand vous êtes en navigation privée, si vous êtes sur Google, Google continue de récolter des choses et peut aussi déterminer votre profil utilisateur par rapport à ce que vous consultez en navigation privée, par rapport à votre IP, donc votre localisation. Il y a tout un moyen, et par rapport à votre système d'exploitation qui est détectable sur un navigateur, etc. etc. Donc il y a plein de moyens de déterminer qui vous êtes alors que vous êtes en navigation privée. Ce qui, évidemment, on va pas se mentir, la navigation privée est utilisée en grande partie pour de l'onanisme, hein, voilà, donc de la pratique solitaire, dirons-nous. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est peut-être le genre de choses où on aurait vraiment envie que ça soit privé à 100% et pas privé, mais Google et d'autres sociétés de pub récoltent des choses. Voilà. Et il y a eu des enquêtes publiées par DuckDuckGo, donc à prendre avec des pincettes. Hein. Autant, vous le savez que je suis très défenseur de la vie privée, mais autant quand c'est une étude publiée par DuckDuckGo, ils peuvent manipuler les chiffres pour aller dans leur sens. Mais selon cette enquête, 65% des Américains se disent confus, surpris, vulnérables ou trompés lorsqu'ils découvrent la face cachée de la navigation privée. Bon, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce que un sondage, ça peut être très facilement manipulé, mais ce dont il est certain, c'est que je suis convaincu qu'une grande partie des gens, peut-être pas plus de la majorité, mais au moins 20%, un tiers des gens, je pense, sont étonnés du profilage qu'on peut faire de leur navigation en navigation privée et de ce qu'on peut récolter sur eux. Voilà. Donc, en mode privé, j'utilise aussi mon VPN. Mais le VPN ne suffit pas, en fait, François-Michel. Parce que le VPN va changer ton IP. C'est déjà un bon point. Attention, François-Michel, c'est déjà bien. Mais le VPN va changer ton IP, ce qui est une bonne chose. Mais ne va pas changer ce sur quoi tu vas aller, ne va pas changer les informations que tu envoie avec ton navigateur. Par exemple, il y a un site qui permet de savoir si tu es à quel point tu es unique par rapport à ton setup. Typiquement, si vous avez deux écrans, vous êtes déjà beaucoup plus ciblable qu'avec un seul écran. Autre truc, si vous êtes sur Linux, vous êtes beaucoup plus ciblable que si vous êtes sur Windows. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent aussi que la vie privée, c'est intéressant des fois de ne pas forcément trop chercher à... comment dire ? Que ça peut être vraiment très intéressant de rester sur des trucs très populaires, par exemple du Windows et du Firefox ou du Chrome, parce que ça vous noie dans la masse. Il y a aussi cette vision-là de la vie privée qui est assez intéressante, de par exemple, pour un activiste ou une personne qui a vraiment besoin de se protéger, de continuer à faire certaines activités normalement avec un Windows, un Chrome, etc. Et de vraiment faire d'autres activités qui pourraient être répréhensibles dans des pays où il y a une grosse répression du gouvernement, etc. De faire ça sur un Linux très protégé et de vraiment verrouiller le truc. Mais la partie un peu plus bateau et visible, la faire sur un ordinateur classique. Parce que vraiment, enfin, il faut que vous le sachiez, les navigateurs connaissent votre système d'exploitation, la définition de votre écran, énormément de choses sur votre... je crois que le niveau de batterie peut être détecté aussi sur un ordinateur. Alors, c'est quand même en général bloqué de plus en plus. Il y a des extensions sur Firefox et Chrome qui permettent de générer des fausses informations, mais c'est détectable. Est-ce pour ceux qui utilisent le navigateur Orange, est-ce que les FAI prennent nos données? Les FAI connaissent normalement tous les sites que tu visites. Après, ils ne le consultent pas. Hein. Ils le consultent s'il y a une demande de la police. Mais les fournisseurs d'accès Internet ont un historique de ton IP et de chaque site que tu visites. J'ai trois écrans, je suis mal. Mais ce n'est pas que tu es mal. C'est juste que tu es plus unique que le reste. Voilà. Après, ceux qui font du dev web ou qui utilisent des outils tels que Google Analytics, pardon, voient très bien le niveau de données récupérables. Tout à fait. Tout à fait, hein, c'est très précis. Il y a zéro confidentialité sur l'Internet classique. Nous ne sommes jamais anonymes. Au minimum, il faut Tor ou L2P. Je ne sais pas ce que c'est L2P pour le coup. Tor, oui, mais ok. Je veux bien que tu précises YouTube perso. Mais même Tor ne te rend pas vraiment anonyme. Enfin bon, c'est très compliqué. Ok, on va avancer, mais en tout cas, sachez qu'il y a cette plainte qui a été déposée. Je trouve qu'elle est assez pertinente, en vérité. Ah, I2P. Ouais, mais même I2P, je ne sais pas. Je veux bien que tu précises la chose. On va parler d'une petite news un peu plus légère. Il y a une application sur smartphone qui le transforme en caméra à vision nocturne. C'est une application en fait qui n'est compatible qu'avec certains téléphones, donc le LG V60, le Huawei P30 Pro, le Honor View 20, le Samsung S10, le Samsung S20 Plus et le Samsung Note 10 Plus. En fait, c'est compatible avec les téléphones Android qui ont le capteur TOF, hein, Night Vision TOF Viewer. Pardon, ça c'est le nom de l'application, mais ceux qui ont le capteur TOF, l'application est compatible et ça permet de tout simplement voir dans la nuit. Donc, je vais vous montrer des images de ce que ça donne. La définition est vraiment pourrie, hein. C'est du 320x240, c'est ce genre de choses. Donc, ça donne ça, en fait. Donc, mais ça permet de voir dans la nuit. C'est-à-dire qu'en pleine nuit noire, vous verrez les formes des objets apparaître. Voilà. Donc, c'est une petite application très gadget, hein. Mais c'est vrai que ça a l'air sympa à tester. Et n'hésitez pas, donc voilà, je vous mets le lien, je vous mets le nom, attendez, non, le lien il est là, je vous mets le lien dans le chat et ça pourrait être cool même que éventuellement vous nous tweetiez des trucs là-dessus parce que je suis très très curieux de savoir un petit peu ce que ça peut donner. Moi j'ai aucun de ces téléphones là donc voilà. Oui, la définition c'est 320x240 pixels, donc c'est vraiment pas pour faire des photos mais c'est plus pour le côté gadget voir dans la nuit. Yes, ça part en prod. tic, 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 c'est cool quand même de pouvoir trouver des, Ah, c'est cool quand même pour trouver des trucs derrière les meubles. Non, mais... Bah oui, en vrai, si, c'est pas con, j'allais dire, ça fonctionne avec la chaleur, mais pas du tout. C'est pas du tout un capteur infrarouge. Non, c'est vraiment une détection dans l'espace. Pour faire des courts-métrages genre Predator, ça peut être cool. C'est vrai que ça peut être sympa pour même de la réal. C'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. J'y avais pas pensé, mais... Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que pour faire des courts-métrages ou des choses comme ça peut être cool. Donc voilà, donc tweetez-nous des trucs. Je suis vraiment, vraiment très curieux de voir si vous pouvez nous faire des captures d'écran là-dessus, voir un peu ce que ça peut donner avec plein d'items et éventuellement faire un truc avec genre ma pièce, elle n'est pas éclairée et ce que ça fait avec le capteur. Ça pourrait être cool. On va voir ce que ça donne sur le Huawei. Eh bien, écoute, Drunks, ouais, fais-nous un petit retour, ça serait très très cool. On va avancer, mesdames et messieurs, et on va parler de Microsoft avec une image qui m'a vraiment fait beaucoup rire. Je trouve que cette image est à la fois terrible et à la fois, je sais pas, le regard de la nana, enfin, c'est vraiment, vraiment, je sais pas, ça m'a fait sourire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Microsoft qui remplace des dizaines de journalistes par une intelligence artificielle. Donc après, c'est un article quand même qui est assez inquiétant dans le sens où, ben, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ben, les intelligences artificielles risquent de plus en plus de... Je vais fermer un petit peu le volet parce que sinon je vais être sur X. Les intelligences artificielles ben, risquent de plus en plus de remplacer des boulots qu'on a. Et là, eh ben, c'est le cas. Microsoft vient de remplacer des dizaines de journalistes par une intelligence artificielle. Ils étaient en charge de choisir et d'éditer des articles pour les pages d'accueil du navigateur Edge et du site web MSN. Voilà. Alors, il faut quand même préciser que ces travailleurs ne rédigeaient pas eux-mêmes les articles, mais ils étaient en charge du contenu éditorial et sélectionnaient les articles produits par d'autres organisations pour ensuite éditer le contenu et les titres. Il faisait aussi en sorte que les titres soient clairs et adaptés au format. Les revenus publicitaires générés étaient partagés par Microsoft avec les rédacteurs d'origine. Désormais, le géant de la tech pourra tout garder pour lui. À présent, la question se pose de savoir si ses employés licenciés retrouveront du travail à l'heure où l'industrie tout entière cherche à réduire ses coûts. Un défi que devront relever de plus en plus de personnes dans les années à venir, puisque l'automatisation continuer à gagner du terrain dans tous les secteurs. Donc, c'est pas vraiment des pigistes. Là, c'est plutôt des gens qui sélectionnaient le contenu éditorial. Mais il n'empêche que ça a déjà été prouvé que les IA peuvent générer des dépêches AFP. Elles en sont capables avec des taux d'erreur assez faibles. Il y a même un bot, par exemple sur Reddit, qui fait le récapitulatif de news. En gros, je crois que c'est sur World News, c'est sur le Reddit World News. Quand vous avez un article, vous avez le premier post qui est un blip blop, je suis un bot et j'ai réduit l'article. Et en fait, il fait un récap et il le sélectionne avec de l'IA. Donc voilà, donc c'est à la fois assez passionnant de voir l'IA qui est capable de faire ça, mais à la fois effectivement assez inquiétant parce qu'il y a énormément, énormément de boulots qui vont disparaître. Et qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Il faut bien trouver quelque chose. C'est là où il y a certaines solutions de société qui pourraient être intéressantes à développer. Hashtag revenu universel. Mais on n'y est pas encore. Et en attendant, il faut trouver des... Voilà, il faut que c'est aux personnes politiques, aux personnalités politiques de trouver des solutions pour éviter que ces personnes crèvent de faim, quoi. Et soient à la rue. Donc on verra. Comment ça évolue. Heureusement, il reste le journalisme d'investigation. Oui, il restera toujours des métiers qui vont très difficilement, à court terme et moyen terme, disparaître. Mais il y a quand même énormément de métiers aujourd'hui qui vont disparaître. Je te prends une connerie, mais la personne qui prépare la commande à McDo, ça va disparaître, quoi. Un robot peut très bien préparer des commandes à McDo ou Amazon. Hein, je suis convaincu qu'Amazon va au bout d'un moment mettre des robots. Ou Uber qui va avoir des voitures automatiques. Enfin voilà, il y a tellement de métiers qui vont disparaître qu'il va falloir vraiment, vraiment, et la population continue d'augmenter, donc il va vraiment falloir trouver des moyens pour que l'humanité fonctionne avec ces gens qui ne bossent pas. De façon, dans des métiers avec des comme on le connaît aujourd'hui, quoi. C'est là où il faudrait vraiment, je pense, faire en sorte qu'on mette l'emphase sur des travaux pour la société commun, quoi. Y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites pour les villes, pour des associations, etc. Et que ça soit, je sais pas, payé par... Enfin bon, bref, il y a plein, plein de solutions, mais... C'est aussi à nous de ne pas utiliser ces services si on est contre. Oui, mais là, Yves, le problème va plus loin. C'est que même, en fait, au bout d'un moment, tu vas avoir de l'automatisation partout. Un des premiers trucs qu'on a vu, c'était les caisses automatiques dans les supermarchés. Enfin, tu es une entreprise, ça coûte beaucoup, 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 beaucoup moins cher d'avoir un automate que un employé que tu vas payer même au SMIC. En gros, c'est 2000 euros par mois qui partent, alors qu'un automate, tu l'as payé, allez, 5000 euros, un truc comme ça, 10 000 euros, mais tu l'as one-shot, enfin, tu as fait ce prix en one-shot, et après, tu as juste l'entretien à payer. L'entretien, ça va être des interventions tous les 6 mois, je ne sais pas combien ça coûte, mais enfin bref, la rentabilité, elle est instantanée, en fait. Donc, il faut aussi penser, voilà, il faut aussi se mettre de ce point de vue-là, parce que sinon, on n'avancera pas. Et en tant qu'entreprise, bah, ça se comprend totalement, ce choix-là. Oui, mais c'est triste. Bah oui, mais il faut trouver des solutions. L'avantage, c'est que c'est les boulots chiants qui vont disparaître. Tout à fait, Maxi Cheese. Moi, je suis assez content de ça aussi. Et puis, pas d'heure sup, travail 24 heures sur 24, ça tombe pas en panne. Exactement. Bah, tu vois ce que tu dis, Drunks, de toute façon, un jour, on n'aura plus besoin de bosser, les bots le feront pour nous et le RSA nous fera vivre. Bah, au final, le revenu universel... Et puis, c'est tout le débat sur la notion de bosser. Qu'est-ce que c'est bosser, tu vois, enfin, et effectivement, moi, je suis quand même pour le fait que des travails... On dit des travails quand on parle de travail, le fait d'avoir un travail, je sais pas. Des travaux, des travails, je sais pas. Des travails pénibles et effectivement déshumanisants soient remplacés par des robots, quoi. Honnêtement, c'est pas très créatif ni gratifiant. En plus, ça abîme le corps d'être caissier ou caissière, quoi. C'est des métiers qu'il faut respecter, évidemment. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que ce sont des métiers qui effectivement, devraient disparaître. Pour laisser la place à des métiers qui ont plus de sens, notamment le fait d'être, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour une ville, pour un village, pour la communauté, faire des associations pour, je sais pas, pour accompagner des jeunes, enfin, il y a plein de choses, et au moins ça aurait du sens, quoi. Parce qu'effectivement, passer sa journée à biper des articles, enfin, je dis vraiment pas ça de façon méprisante, hein, vraiment, le prenez pas comme du mépris, mais je suis à des années-lumière du mépris. J'ai même un immense respect pour ces personnes-là qui ont ce métier-là et qui est vraiment pas facile et qui devrait être plus payé que mon métier de dev. Je suis quand même très confortable, moi. Je suis soit chez moi, soit en entreprise. J'ai des fauteuils qui sont confortables. Je peux être créatif quand même dans mon métier. Quand je compare à ces personnes-là devraient être plus payées que moi. Point barre. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. L'automatisation demande de l'énergie. Si les gens n'ont plus de boulot, ils ne consomment plus, donc ces sociétés ne vendent pas. Oui, mais si tu as le principe d'un revenu universel, ou si ces personnes peuvent avoir quand même un certain pouvoir d'achat, elles peuvent quand même continuer à dépenser. Donc, en fait, le problème est extrêmement complexe, on ne le résumera pas maintenant, mais c'est un débat qui est extrêmement intéressant. On dit des... ça se contredit. Le terme emploi me paraît mieux, tout à fait technique savoir. L'automatisation demande de l'énergie, les prix ne vont pas descendre. En plus, on risque d'avoir des robots vite obsolètes. L'humain reste le robot le plus modulable, je ne suis pas convaincu. Hâte d'être remplacé par un bot à mon taf. Donne pas des mauvaises idées à Jérôme, il va te remplacer par un robot pour présenter le mug. Non, ça va, j'ai mon caractère pour rester ici. Est-ce que tu penses qu'un robot va parler de vie privée et être relou avec Google comme moi, hein? Je ne pense pas. Bref, on va terminer là-dessus. On va passer on va passer à la tartine. Mais avant, vous le savez, nous sommes fièrement sponsorisés par Shadow, le PC dans le cloud. D'ailleurs, pour ceux qui doutent encore de Shadow, hier, on a fait un live full gravier sur Twitch avec Jérôme et Yanis. C'était très cool, on a joué à Overwatch. Et Overwatch tournait parfaitement bien sur le Shadow de Jérôme. Donc, pour ceux qui veulent voir ça un petit peu en direct, eh bien, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne Twitch, NowTechQG. Et c'était Jérôme qui streamait depuis son ordi et il jouait sur un Shadow. Donc, comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que la bête a dans le ventre. Donc, vous le savez, vous avez toutes les semaines un mois de Shadow à gagner pour participer, vous suivez le Twitter @shadow-france. Vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le Magnautech pour jouer à tel jeu ou tel logiciel, enfin utiliser tel logiciel. Et demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Et je vous propose que nous passions tout de suite à la tartine. Alors mince, j'ai pas du tout eu le temps de manger mon carré de chocolat. C'est très très embêtant. Ah, Je vous propose de remettre le générique. Parce que le tchouk 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 du chocolat, c'est pas terrible. On est dans la tartine! Ça marche bien, hein. C'est vraiment une très très bonne technique. Bon, dans cette tartine, mesdames et messieurs, nous allons parler de la tartine au chocolat. Exactement, Pierre-Yves, je n'aurais pas trouvé meilleure façon de le dire. Donc, dans cette tartine, nous allons parler de trois animés, donc séries, hein. C'est vraiment des séries avec des épisodes courts. On n'est pas sur des films d'animation comme des Miyazaki ou ce genre de choses. Bref, aujourd'hui je vais donc commencer par vous parler de Jojo's Bizarre Adventures, qui est un animé dont j'avais entendu parler il y a déjà plusieurs années. J'avais un pote à l'IUT qui était extrêmement fan de Jojo Bizarre Adventures et qui nous vantait le truc en disant mais c'est trop bien, il faut que vous regardiez tout ça. Bon, moi j'avais pas trop. Enfin, voilà, ça m'était un peu sorti de l'esprit. Et confinement oblige. Je me suis dit, donc avec aussi ma chérie avec moi, on s'est dit que ça pourrait être cool de démarrer Jojo pour voir un petit peu ce que ça avait dans le ventre. Et en fait, c'est très particulier Jojo, mais c'est vachement bien. Donc Jojo, qu'est-ce que c'est? Je vous fais un petit peu le récap. L'histoire nous fait suivre les générations de la famille Joestar. D'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien dans cet animé, c'est que c'est un animé japonais, mais ça se passe pas au Japon. Et ça, c'est vachement. Enfin, ça se passe de temps en temps au Japon, mais je veux dire, la majeure partie de l'animé ne se passe pas au Japon, ce qui est assez dépaysant parce qu'on a quand même l'habitude de voir des animés au Japon. Mais là, au moins, il y a un côté un peu dépaysant. Donc, en tout cas, la saison 1, par exemple, se passe à Londres. Donc, c'est assez cool. Donc, l'histoire nous fait suivre les générations de la famille Joestar. Donc, chaque partie, donc chaque saison, on va dire, se concentre sur l'un des descendants qui possède des pouvoirs et qui livre bataille contre ceux qui veulent dominer le monde. Donc, le résumé de la saison 1, pour que ça vous donne un petit peu envie d'aller regarder tout ça. C'est sur Netflix, hein, voilà, donc vous pouvez regarder sur Netflix. Pardon. Nous voici à la fin du 19e siècle en pleine Angleterre victorienne. Lord Joestar voit arriver dans sa maison le jeune Dio Brando, le fils de l'homme qui croit lui avoir sauvé la vie. Donc en gros, le père du héros principal de la saison 1 s'est fait sauver la vie par le père de Dio Brando. Dio qui est en fait hashtag le méchant. Voilà, bref. Donc le père adopte le Dio Brando, mais le jeune homme s'avère ambitieux et n'a pour seul but que de s'emparer de la fortune de la famille Joestar. Dio fera tout pour nuire et humilier Jonathan, le fils de Lord Joestar, afin de le détruire psychologiquement et atteindre son but, parce qu'évidemment, ce qu'il veut, Dio, c'est pourrir donc Jonathan Joestar, hein, le fils légitime, pour essayer d'avoir la succession à sa place. Voyant que cela s'avère vain et vaincu par sa force de caractère, il lui laisse un répit de plusieurs années. Tous deux désormais à l'université, ils sembleraient presque être des frères unis, donc Jonathan et Dio. Mais ce n'est pas le cas, et Dio n'a pas renoncé à ses plans. Et l'histoire prend une tournure très différente quand Dio s'empare d'un masque très particulier. Et vous verrez que les premières saisons sont... voilà, on parle beaucoup de ce masque, du masque de pierre qui donnerait peut-être, je ne sais pas, des pouvoirs à celui qui tente de le porter. Donc voilà, donc moi j'adore Jojo's Bizarre Adventure, c'est très très cool. Il y a une BO musicale qui est très originale et pas besoin de le télécharger légalement. Exactement, Technique Savoir, c'est sur Netflix, donc n'hésite pas. Ouais, exactement, Guillaume, tu dis yo! Ben oui, il y a plein plein de mèmes sur internet que vous comprendrez en plus en regardant Jojo's Bizarre Adventure. C'est un peu particulier comme animé, hein, ça plaira pas forcément à tout le monde, mais moi je me suis vraiment éclaté à le regarder. C'est très très cool. Et. Tac, tac, tac. Ah putain, ce que tu m'as dit, Jérôme, génial. Une IA ne mange pas de chocolat en pleine émission. Tout à fait. Une IA ne relancerait pas deux fois le générique aussi. Bref. Donc, ça, c'est pour le premier animé que je vous recommande chaudement. Et encore une fois, comme c'est sur Netflix, au moins, c'est plus facile de regarder un ou deux épisodes. Vous verrez que le premier épisode. Je vous le dis, moi j'ai beaucoup aimé le premier épisode. Mais si vous avez du mal avec le premier épisode, laissez sa chance et laissez deux ou trois épisodes. Voilà. On va parler maintenant du deuxième animé que je trouve vraiment génial, c'est de l'animation française. On était sur de l'animation japonaise juste avant. Là, on est sur de l'animation française. C'est Last Man, qui est également sur Netflix. Et je vous lis un petit peu le résumé. À Paxtown, une ville rongée par la violence et la corruption, le jeune Richard Aldana, boxeur amateur, vivote entre la recherche d'un emploi et le club de boxe de son ami et mentor Dave McKenzie. Ce dernier est un jour enlevé sous les yeux de Richard, impuissant face à l'ordre du lion et leur chef Rizel. Richard va peu de temps après apprendre l'existence de Siri, fille cachée de Dave, qui cherchait à la protéger de l'ordre. Richard va se retrouver à devoir la protéger des sombres ambitions de Rizel. C'est de l'animation française, c'est très cool, c'est pas très long, donc ça se regarde finalement assez rapidement, mais ça a sa petite durée de vie quand même, hein, comme série. Et l'animation est vraiment vraiment géniale, l'histoire est vraiment géniale, c'est un peu surnaturel, le côté boxe est très 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 bien décrit. Enfin, j'aime vraiment beaucoup Last Man et je vous invite vraiment à voir l'animé. Le doublage français est génial, enfin, foncez, c'est du bon. Et vous... attends, moi, Giorno Giovanno, désire tripler le Tipeee d'Anotec. il y a Snowpiercer qui est cool en ce moment sur Netflix. Je ne sais pas, je l'ai pas, j'ai pas regardé. N'hésitez pas dans la chatroom à conseiller des séries, hein, d'animés. Les livres sont très cool. J'ai pas lu Last Man en livre, mais ok. Ok. Et dernière série, dernier animé dont je voulais vous parler, c'est Ping Pong The Animation. Alors, je sais que ça pourrait faire sourire certains. Au fait, merci Techni Savoir pour ton super chat. J'avais pas vu que tu avais fait un petit don. Merci à toi. Donc Ping Pong The Animation, c'est un c'est un animé évidemment sur le ping pong, mais l'animation est très... Moi, j'aurais envie de dire que l'animation est très japonaise, très particulière. J'aime beaucoup l'animation, mais ça plaira pas non plus à tout le monde. Mais en tout cas, ce que je trouve génial, c'est que l'histoire est géniale. L'histoire est très, très bien écrite. Je trouve que les personnages dans Ping Pong The Animation sont complexes. On s'attache très facilement à eux. Et on a des fois l'impression... En fait, on a tous envie que ces personnages gagnent. Vous vous doutez bien qu'il y a un tournoi de ping-pong à un moment dans l'animé. Donc, on a tous envie... Tous les personnages ont une bonne raison de gagner les tournois. Donc, c'est très intéressant. Il y a des retournements dans l'histoire. Il y a des personnages qui sont très forts, qui deviennent très faibles, qui reviennent très forts. Enfin, bref, ça change du tout au tout. Et je vais vous lire un petit peu le récap. Donc, Smile et Peko sont deux amis d'enfance qui fréquentent le même lycée. Ils sont inscrits au club de ping-pong. De caractère très différent, Smile a longtemps vécu dans l'ombre de Peko, celui qui a tout réussi, jusqu'au jour où l'entraîneur de l'équipe de ping-pong décèle des capacités hors normes chez Smile et lui prodigue un entraînement particulier. Si bien qu'il en vient à dépasser Peko, pas pour longtemps en réalité, car Peko trouve à son tour un coach qui le remet à niveau. La table de ping-pong devient alors un véritable champ de bataille. Oui, l'animé de Castlevania est vachement bien. J'ai beaucoup aimé aussi, Germain, cet animé-là. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, je vais vous montrer un petit peu les trailers de ces animés-là. Vu qu'il nous reste un petit peu de temps, j'aimerais bien que ça m'ouvre YouTube normalement, s'il vous plaît. Hop, tac, youtube.com. Et donc, je vais vous montrer un petit peu Jojo's Bizarre Adventure. Jojo Bizarre Adventure. Je sais pas comment on pourrait mettre trailer. Ouais, trailer peut-être. Trailer. Ouais, si, il y en a un. Hop. Alors, j'espère qu'on va pas se faire. C'est sur une chaîne YouTube qui est pas. Qui n'est pas une chaîne officielle, donc je pense qu'on se fera pas emmerder là-dessus. Hop, je vous montre un petit peu ce que ça donne avec le son, évidemment. J'espère, ouais, si ça va. J'espère que ça vous donnera envie.
ああ、なってやるとも。誰にも負けない男になる。僕はディオ。僕は本当の真摯を目指しているからだ。君はディオブランドだね。そういう君はジョナサン・ジョースター。こいつがジョースター家の跡継ぎか。精神的に追い詰め、ゆくゆくはこのディオが。 いいか、ジョジョ。僕は一番が好きだ。ナンバーワンだ。
僕は今、とても恐ろしい想像をしている。
ジョジョには決して友人も恋人も与えん。
さすがディオ、そこに痺れる、憧れる。
エリナに何をした。お前、はっかり抜かすなよ、金持ちのアマちゃん。
僕は父を、ジョースター家を守る。
あんなクズのせいで計画を潰してたまるものか。いい機会だ、ジョジョの前にまずここで試してやる。この光は一体、まさか死んでいない。
とうとう掴んだぞディオ、君の悪魔のような陰謀の証拠
を。俺は人間をやめるぞ、ジョジョ。
Voilà, donc ça c'est le trailer de la saison 1. Et bah, c'est vachement bien, et c'est, ça me rappelle plein de souvenirs, donc c'est très cool. Maintenant je voulais vous montrer un peu le trailer de justement Last Man. J'ai l'impression de voir un dessin de quand j'étais petit, genre Ken le survivant. Franchement, Techni Savoir, donne sa chance, je te le dis. Donne sa chance, trailer FR, voyons voir. Donne sa chance à Jojo. Après voilà, c'est de l'animé japonais, donc... Donc il y a des gens qui ont du mal parce que c'est pas du tout le genre de dessin et le japonais. Enfin voilà, c'est pas forcément facile pour tout le monde, je l'entends totalement. Mais je vous assure que c'est très sympa comme série. Ça c'est Last Man. Ça, Last Man, c'est peut-être un peu plus accessible. Voilà, c'est de l'animation française. C'est peut-être moins dépaysant pour certains. Donc n'hésitez pas, enfin je vous laisse ça. D'ailleurs, je peux mettre comme ça.
Tous mes problèmes sont envolés. Au loin, les gens sourient.
J'ai oublié de préciser, mais Last Man, c'est quand même plutôt un dessin animé pour adultes. Hein. Enfin, d'ailleurs, Jojo aussi. Ping Pong's Animation, ça peut être regardé avec des enfants. Mais les deux premiers, c'est plutôt pour adultes.
Les oiseaux, quand ils volent, emportent mon passé. C'est ainsi que mes soucis se mêlent aux étoiles et à l'infini. C'est ainsi.
Voilà, donc ça c'est la bande-annonce de Last Man. Et je vous propose donc la bande-annonce de Ping Pong The Animation. Vous verrez qu'on est sur trois façons, enfin sur trois animations, trois types d'animations très 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 différentes. Hop, je sais pas si je tape plutôt bande-annonce. Bande-annonce VF, on va voir un petit peu. Ping Pong Official Trailer, est-ce qu'il y est en français? Je pense pas. Cette vidéo, bon. Je vais mettre celle-là. Ça sera en anglais, mais c'est pas très grave. Et vous verrez que quand je vous dis que l'animation fait très, très japonaise, je pense que vous allez comprendre pourquoi, mais ça fait très illustration un peu de l'ancien Japon. Enfin voilà, je vous laisse avec la bande-annonce, vous allez comprendre ce que je veux dire.
He looks down on us all. That's why he's playing in so many matches. Nobody on our team's good enough to practice against.
Lay off, Imoda.
What's with the permanent frown anyway?
I try to avoid emotional extremes. Even then, he never smiles.
He's dumb, Peiko. I can't teach him. He just keeps sucking.
But when I showed him how to play ping pong, the dude smiled like crazy.
Do you think I'll ever be like you, Peiko?
Bring it.
That's out.
When did you learn to play like this?
Starting today, I don't want you thinking about anything other than table tennis.
I'm not interested in shiny medals. That's not why I play.
Your boy sure breaks the mold, doesn't he?
Vous voyez, ce genre de dessin-là, moi, je trouve ça vraiment très, très beau. Moi, ça me plaît beaucoup, mais je peux comprendre que cette animation dans Ping Pong plaise pas à tout le monde.
Incredibly talented. like he doesn't give a lick about winning.
No napping, Skimoto!
Hey! You can't leave!
They don't respond to that crap.
Here I thought I was doing right by the boy.
Setbacks and defeats. Isolation and turmoil. You feel it, right? You feel it chasing you.
The hero appears.
The hero appears!
That's it, boy! Prove you can return it!
The hero appears. The hero appears.
There are no heroes.
Are you kidding? I'm the hero of this story, and don't you dare forget it. Peiko, do you believe in heroes? You're just messing with me, right?
The hero appears.
The hero appears. The hero appears. Can I be like you?
Because I want to be.
Voilà. Donc je vous ai montré un petit peu, en sachant que Jojo, je crois pas que ça a été doublé en VF. Last Man, c'est évidemment en VF. Et Ping Pong The Animation, il me semble pas que ça soit non plus en VF, pour ceux qui ont vraiment du mal avec les sous-titres. Mais voilà, en tout cas, moi je vous dis, la plus grosse surprise de ces trois-là, c'est Ping Pong The Animation. Autant Jojo, j'en avais entendu beaucoup de bien, autant Last Man aussi. Autant, c'est vrai qu'en fait, ce qui est assez génial dans le dernier, c'est que je sais pas trop comment expliquer, mais l'histoire est vraiment bien écrite. C'est-à-dire que les persos sont bien écrits et c'est marrant comment, en fait, on peut avoir un matériau de base comme le ping-pong qui, comme ça, au premier abord, paraît un peu bof. Hein, voilà, c'est pas forcément dingue, mais comme quoi. Le fait derrière d'écrire des personnages qui sont intéressants, d'arriver à développer leurs enjeux et de les, je sais pas, de leur donner vraiment de la consistance, de les faire, à la fois on les apprécie, mais à la fois il y a des côtés qu'on n'aime pas chez eux. Enfin, tout ça est vraiment bien fait. Plus les dessins que j'aime beaucoup. Ce qui fait que c'est un petit animé qui dure pas très longtemps. En plus, Ping Pong Animation, il y a 11 épisodes de 20-30 minutes, je crois. Donc c'est très très rapide, mais ça en fait une petite histoire qui passe bien et par exemple pour manger entre midi et deux est très sympa. Voilà. Je vous propose, mesdames et messieurs, qu'on passe au camp de fac et ça va peut-être être la première fois que nous allons terminer un mug dans les temps. Donc c'est incroyable. C'est parti, camp de fac. Pas de question Platinum, très bien, merci Jérôme. Alors, c'est pas sur Netflix. Le Ping Pong The Animation n'est pas sur Netflix. Il est, tu peux le trouver sur pas mal de plateformes et tout ça, mais il n'est pas sur Netflix. Première fois, non, mais très rare. Oui, tout à fait, Samuel. Non, mais ça reste assez rare. Je vais remonter un petit peu si vous avez dit des trucs sympathiques. Ah oui, la triple démonétisation, l'info avant tout. Écoute, Jérôme, en vrai, je sais pas. Vu que c'est sur des chaînes, on risque de se faire démonétiser, mais bon. Écoute, je te paierai un café pour ces quelques centimes de perdu sur la vidéo. High Score Girl, également sur Netflix, c'est pas mal. Je connais pas du tout High Score Girl, mais peut-être que c'est cool, ok. Comme Olive et Tom, la balle met trois épisodes à traverser la table. Non, vraiment, pour le coup, ils sont pas tombés dans cet écueil-là. Ah, Technisavoir qui dit une IA ne recevrait pas de super chat. C'est vrai aussi. Je pense qu'on donnerait pas beaucoup d'argent à une IA. Donc, si vous avez des questions, évidemment, c'est le moment. Est-ce que je connais une bonne alternative à WhatsApp? Oui, Signal, Telegram, l'une ou l'autre. Si tu veux une alternative à ces services-là, utilise... En fait, moi, je trouve que le meilleur service à conseiller, c'est vraiment, vraiment Signal, parce qu'ils ont l'avantage de se mélanger au SMS. Moi, c'est ce que j'utilise sur le téléphone. Signal, ça se mélange au SMS. Et donc, ça permet aux personnes qui sont sur Android de ne pas avoir une grosse transition à faire. Ça garde la même chose. Juste, si d'autres personnes sont sur Signal, ça chiffre les messages. Et ceux qui sont sur iOS... en fait, ils peuvent remplacer WhatsApp par signal, ça change rien. Ça reste une autre application de messagerie que les SMS, mais ça permet de dialoguer avec tous ceux qui sont sur Signal, quoi. Donc je pense que c'est le mieux. Le problème, c'est que personne ne l'a. Ouais, mais je pense que c'est de moins en moins compliqué à convaincre les gens de sortir de Messenger. Donc, si tu aimes ce genre de background, je peux te conseiller le travail de Mateusz Urbanowicz, qui a notamment travaillé sur Your Name. J'adore Your Name. J'ai beaucoup aimé Your Name. Signal oui, mais pas de prise en charge de double SIM, c'est ce que tu as voulu dire, Frédéric, peut-être ? Okay. Moi, j'aimerais vraiment dégager Messenger sur mon téléphone. Je peux pas encore. Ça me fait chier parce que c'est installer une appli Facebook, ça me sort par les trous de nez. Mais c'est vrai que j'ai vraiment tous mes potes qui sont sur Messenger de Facebook. C'est trop chiant. C'est trop chiant et je voulais écrire ça dans un article justement, mais pour moi, c'est difficile de demander. C'est impossible de demander à tout le monde de sortir de Messenger pour Signal. Déjà parce que tu passes pour le relou et en plus parce que voilà, les gens ont leurs habitudes. Et malheureusement, Messenger, ça fonctionne ultra bien. Ça fonctionne bien parce qu'ils ont une base d'utilisateurs énorme. Tout le monde était sur Facebook. Ça fait 10 ans que tout le monde est sur Facebook. De moins en moins, il y a des gens qui partent. Mais globalement, s'il y a un endroit qui centralise plein de monde, c'est ça. Alors que Signal, Signal, c'est Signal, quoi. Donc, ça n'existait pas avant, quoi. Guillaume, je cherche un bon gestionnaire de mots de passe. Bitwarden, Keishiwo. C'est très bien, Bitwarden. Voilà. Voilà. Aimes-tu le rétro gaming ? J'adore ça. Il n'y a pas très longtemps, on a joué à Mario Kart Double Dash avec ma chérie. C'était très cool. Donc, d'ailleurs, il faudrait que je stream un peu de jeux rétro, ça serait rigolo. Bon, mesdames et messieurs, il est 9h, je vais vous laisser ici, parce qu'il faut que j'aille bosser pour mon taf, parce que ça aussi, c'est du boulot, évidemment. Mais je veux dire, il faut que j'aille bosser pour faire du dev, etc. Donc, Signal donne une bonne haleine, par contre, tout à fait. C'est un très bon argument, BX. Récemment, j'ai supprimé Facebook et Messenger. J'ai plus que WhatsApp et Insta en réseau. Franchement, je m'en sors. Moi, mon objectif, Robin, c'est d'arriver à zéro Facebook sur mon téléphone. Voilà, c'est compliqué. Il y a une appli qui s'appelle Frost, je vous en reparlerai aussi, qui permet de presque se passer de Messenger, mais bon, elle n'est pas au niveau encore, mais elle est vachement bien. Donc, n'hésitez pas, elle est sur F-Droid ou elle doit être dispo sur le Play Store. Mais bon, pour ceux qui ont une utilisation très légère de Messenger, donc quasiment genre pas quotidien, Frost for Facebook, je crois que ça, enfin c'est Frost, c'est sûr, elle est vachement bien. Voilà. Bon, je vous fais des bisous tout le monde, ciao, merci d'avoir été présent et écoutez, on se retrouve peut-être ce week-end sur un de mes streams, sinon peut-être lundi prochain pour continuer les streams photos avec Jérôme et sinon mercredi prochain pour les streams gravier avec un petit jeu de rôle et jeudi prochain pour le bug. Ciao tout le monde, bye bye.